With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
2,21 gigawatts! Mon Dieu! Recherche,
scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Romain, hein? L'enregistrement a commencé.
Ah, pardon? On ne le dirait pas comme ça, mais mes talents de comédien vous ont révélé le thème du premier épisode de Sixième Science. Rêvasser, non seulement c'est cool, mais ça nous fait du bien. Une récente étude du Georgia Institute of Technology à Atlanta a prouvé que ne rien faire, justement, faisait du bien au cerveau. Les plus rêveurs d'entre nous seraient à la fois plus créatifs et meilleurs aux tests de capacité intellectuelle. Depuis que j'ai appris ça, je baille aux corneilles comme jamais. C'est donc Hugo Janinière de Sciences et Avenir qui va me sortir de mon gros hamac cérébral pour me remettre les neurones en branle. Côté 20 minutes, on compte aussi des journalistes éveillés au mystère des sciences. Anissa Boumediene, l'une de nos expertes santé, compte parmi eux. Anissa et Hugo, bonjour et merci de passer votre cerveau en mode surchauffe. Hugo, on commence avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'étude américaine qui ouvre ton dossier dans le numéro de Science et Avenir de juillet ?
Oui, alors ce sont des neuropsychologues du Georgia Tech à Atlanta qui ont montré que les plus rêveurs d'entre nous, ceux qui avaient le plus l'habitude de rêvasser au quotidien, avaient en moyenne de meilleurs résultats aux tests de créativité et d'intelligence. Concrètement, les chercheurs ont demandé à une centaine de participants de se mettre dans une machine à IRM qui suit l'activité cérébrale et ils leur ont demandé de ne rien faire du tout. Donc ça veut dire fixer un point et laisser son esprit vagabonder. Avant ça, ils leur avaient fait passer des tests et ils se sont rendus compte que ceux qui avaient la meilleure connectivité sur le réseau impliqué quand on ne fait rien étaient ceux aussi qui avaient les meilleurs résultats. Par ailleurs, ils leur avaient aussi demandé quelle était la fréquence de leur rêverie au quotidien. Est-ce que ce sont des gens qui sont très occupés, toujours happés par leur smartphone ou des gens qui ont tendance à se laisser aller? Et il se trouve que ceux qui avaient les meilleurs résultats étaient aussi ceux qui rêvassaient le plus souvent.
Donc en gros, tu es en train de nous parler du mode par défaut, hein, c'est ça, le RMD.
C'est si ça, j'ai bien, le, si j'ai bien le RMD, le réseau du mode par défaut, c'est le réseau que le cerveau sollicite quand il ne fait rien de particulier. Mais attention, il ne faut pas qu'il soit en train de dormir. Là, c'est une autre affaire. Mais quand on a le regard perdu dans le vague, notre activité cérébrale est constante et soutenue. Elle n'est pas engagée sur des fonctions exécutives comme le fait de lire, danser, chanter, dessiner, mais il y a une activité cérébrale qui est quasiment aussi importante. Pour donner un chiffre, quand on passe d'un mode rêverie à un mode exécutif, comme écrire par exemple, on n'utilise pas plus de 5% d'énergie supplémentaire. L'énergie consommée par le cerveau est quasiment la même quand on ne fait rien que quand on fait quelque chose. Ce qui veut dire que quand on ne fait rien, on fait quand même
quelque chose.
Beaucoup de choses. Voilà. Alors, ce réseau du mode par défaut, ce sont 5 régions cérébrales distantes les unes des autres qui sont connectées entre elles par évidemment des connexions neuronales. Et ce réseau quelque part, a un rôle de chef d'orchestre. Quand on ne fait rien, il y a une espèce de resynchronisation dans le cerveau qui se prépare à réagir, ou pas.
On a complètement oublié aujourd'hui que le cerveau est de loin la plus importante zone érogène.
Pour vous peut-être.
J'avais pensé à une métaphore, c'était l'idée de représenter un peu ce mode par défaut comme le point mort en fait pour la voiture, c'est-à-dire qu'elle est prête à démarrer, elle est prête à reculer éventuellement.
Un peu oui. Au point mort, le moteur de la Twingo, il tourne comme notre cerveau, en mode par défaut, mais il ne fait rien de particulier. Il est en attente. Le RMD, c'est pareil. C'est celui que sollicite le cerveau quand on ne fait rien de particulier, mais qu'on se prépare à réagir. On ne dort pas. Quand il se passe quelque chose, qu'il faut avancer, on va passer la vitesse et on va avancer. Le cerveau, c'est pareil, il se prépare à faire quelque chose de précis.
Et en quoi le fait de rêvasser, de passer du temps à ne rien faire, pourrait être bénéfique pour le cerveau ?
On s'aperçoit, ces 10 dernières années, que dans toute activité, qu'elle soit cognitive ou créatrice, il est impliqué. Et meilleure la connectivité est dans ce réseau, et meilleurs sont les résultats à toute une batterie de tests qu'on peut faire passer au sujet étudié. Donc ce réseau du mode par défaut, il est très important parce qu'il permet en quelque sorte de garantir la bonne santé du cortex.
Ok, donc c'est un peu comme un muscle.
On a souvent tendance à présenter le cerveau comme un muscle, c'est toujours une erreur. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que quand on sollicite certains réseaux, certaines connexions, on les entretient, on les consolide. Et c'est pour ça que rêvasser aussi souvent que faire se peut, consolide une partie essentielle du fonctionnement cérébral.
Pire, moi j'en ai connu un comme ça, que son cerveau se ramollissait. Ça se fondait tout là-dedans.
Anissa, tu voulais ajouter quelque chose ?
D'abord, vous serez ravis d'apprendre que j'ai un cerveau en très très bonne santé. C'est ce que j'ai découvert à la lecture de ce dossier. Comme l'indique d'ailleurs le professeur Eustache qui est interviewé dans ce dossier, rêvasser, c'est se perdre dans ses pensées, dans des événements qui sont plus ou moins récents. C'est un moyen effectivement pour le cerveau de consolider la mémoire. Et lui décrit ça comme le fait de créer un peu notre propre autobiographie. Ce sera un petit peu comme un livre. Et le fait de se perdre dans ses pensées, dans ses moments de rêverie, ça permet de se créer une sorte de livre très cohérent. Et en fait, si on ne s'accorde pas ces moments-là de pause, ce livre-là, il va lui manquer des pages. Toute cette autobiographie-là, il va lui manquer une certaine cohérence. Il y aura des trous. Et c'est ce qu'on peut voir aussi quand je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive assez fréquemment. Je suis en train d'écrire un article, je vais buter sur une formulation de phrase ou sur une idée que je tiens un petit peu mais dont il me manque une partie. À ce moment-là, je sais pas, je vais lever le nez vers la fenêtre, je vais laisser mon esprit vagabonder et puis voilà, mon esprit part, va faire sa petite balade et il revient avec les idées souvent beaucoup plus claires sans que j'ai forcément cherché à avoir la solution. Et ça a été effectivement démontré à de nombreuses reprises et notamment par une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Santa Barbara qui avait mené une étude publiée en 2012 dans la revue Psychological Science. Et dans cette étude-là, donc ils ont comparé plusieurs groupes qu'ils ont placés dans différents contextes. Certains ont eu un petit espace de rêverie et en fait chaque groupe avait une tâche à accomplir et ils ont démontré que ceux qui avaient eu quelques instants de rêverie dans ce processus étaient les plus nombreux à avoir réussi à dépasser les blocages ou les petits soucis rencontrés. Donc ils ont pu montrer que rêvasser avait un véritable intérêt.
Si je comprends bien, en fait, le RMD, donc le réseau du mode par défaut, il a potentiellement plusieurs utilités.
Il y a deux fonctions principales qu'on lui attribue, mais qui sont des hypothèses et qui ne sont pas contradictoires l'une de l'autre. Mais c'est celle que rappelle Anissa, c'est cette vertu introspective. En gros, quand on se perd dans ses pensées, on en vient souvent à se poser les questions. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Ça se finit souvent comme ça. Et alors, en termes techniques, les scientifiques expliquent qu'il serait dédié à la construction de simulations mentales dynamiques basées sur des expériences passées, présentes et sur une projection dans le futur. Voilà. Plus simplement, c'est qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je. L'autre fonction, c'est plus terre à terre, elle est plus axée sur les mécanismes cérébraux, c'est de dire que quand on rêvasse, on est un peu ailleurs, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'attention diffuse à l'environnement qui fait que s'il se passe quelque chose, le cerveau est prêt à basculer dans une tâche exécutive. Prenons l'exemple du vacancier qui est installé sur sa chaise longue et il rêvasse et tout d'un coup une mouche vient se poser sur son bras. Automatiquement, ça va le sortir un peu de sa rêverie. Il va y avoir un désengagement de l'activité cérébrale de ce réseau du mode par défaut qui va se déporter vers est-ce que j'écrase la mouche ou je la chasse ou voilà. Donc il y a cette façon d'être un peu un cerveau sentinelle en surveillance. On se rend compte souvent que on a une capacité de réflexe quand on est en rêverie qui est plus importante que si on est accaparé par une tâche. Et donc la bonne santé du réseau du mode par défaut, c'est ce qui fait qu'on peut basculer d'une tâche à une autre. Il y a cette fonction de resynchroniser les différentes aires cérébrales de telle façon à ce qu'elles puissent réagir de la façon la plus adéquate à l'environnement.
C'était un virus foudroyant qui vous enflait la cervelle, vous donnait une fièvre de cheval, qui vous rendait hargneux, violent, et vous filait une sacrée grosse fringale.
On attaque du coup la partie pas très globe hein, de l'émission, le RMD, donc il fait interagir 5 parties de notre cerveau. À la fois, il est très présent et très important, et en même temps, on a l'impression qu'il est ultra fragile et qu'il ne tient pas trop l'épreuve du temps.
Personne ne tient l'épreuve du temps. C'est-à-dire qu'en en vieillissant, notre cerveau se modifie et la connectivité du réseau en mode par défaut est altérée dans le vieillissement normal. Ça, c'est logique. C'est-à-dire qu'à 80 ans, on va avoir tendance à moins facilement sortir de sa rêverie si on conduit, qu'on est un petit peu sur une route très tranquille où il n'y a pas grand-chose à faire. Le conducteur jeune, s'il se passe quelque chose, il réagit très vite. La personne âgée, cette bascule peut s'opérer de façon moins évidente. Mais le problème est surtout que c'est dans toute une gamme de pathologies neuropsychiatriques qu'on s'aperçoit que le réseau du mode par défaut est altéré. Ça marche dans Alzheimer, qui est très très étudié, mais aussi dans schizophrénie, sur la sclérose en plaques et même les troubles obsessionnel compulsif. Et ça, là-dessus, il y a eu une étude très récente qui a observé l'effet d'une thérapie comportementale chez les personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs et qui s'est rendu compte que l'efficacité de cette thérapie était corrélée à une meilleure connectivité sur ce réseau, ce fameux réseau, ce fameux RMD. Donc, ça montre qu'il est engagé dans toute une gamme de pathologies et qu'il est important de le préserver.
Et du coup, la question à un million, c'est comment on le préserve ? Enfin, comment est-ce qu'il faut davantage rêvasser ? Comment rêvasser pour que justement ce RMD reste en bonne santé ?
Alors, pour que le RMD reste en bonne santé, il n'y a pas de secret. Les réseaux cérébraux, c'est toujours pareil. Il faut les solliciter. Plus on sollicite un réseau cérébral, que ce soit exécutif ou en mode par défaut, plus on améliore la connectivité dans les neurones qui composent ce réseau. Donc le meilleur moyen d'entretenir et de consolider le réseau du mode par défaut, c'est de lâcher prise et de rêvasser. À l'époque qu'on connaît, c'est pas évident puisqu'on a quand même
des smartphones,
des tablettes qui, aussi utiles soient-ils, font qu'on est en permanence sollicité et que bien souvent, l'état de repos éveillé du cerveau, c'est compliqué.
Toutes les choses que vous créez servent à détruire.
Oui. C'est la nature humaine, comme on dit. T'as pas appris ça sur ton écran ?
Anissa ?
Oui, justement, c'est très important d'arriver à débrancher, à vraiment se déconnecter de tous ces appareils qu'on utilise absolument tous les jours, tout au long de la journée, et qui nous maintiennent en fait dans une sorte de veille constante. On parle d'effet sentinelle, qui fait qu'on est toujours à l'affût. On attend un message, une notification, un like, et en fait, c'est autant de temps qui est grignoté sur le temps qu'on devrait consacrer à la rêverie, et donc à la consolidation de notre mémoire. Donc, lâcher notre smartphone, ça a vraiment un intérêt démontré, c'est primordial pour arriver à avoir un cerveau et une mémoire préservée.
Visage pâle, avoir cerveau sous scalp. Et pas avoir tort de nourrir méfiance dans son cœur.
Hugo, est-ce que les chercheurs que tu as interviewés, ils avaient des astuces là-dessus ? Est-ce qu'eux-mêmes pratiquaient des choses pour rêvasser, prendre du temps pour eux ?
L'astuce, c'est de se réserver des plages de temps. Ben, ça veut dire éteindre son smartphone. Et quand on est en vacances, c'est la déconnexion, mais ce dont on parle de plus en plus. Là, on comprend mieux parce qu'il y a une implication sur le cerveau, mais c'est de pouvoir avoir du temps pour bâiller aux corneilles.
Donc de fermer les yeux après l'écoute d'un podcast, par exemple de 20 minutes à Sciences à venir.
Par exemple, mais sans s'endormir.
Eh bien justement, vous pouvez éteindre votre cerveau, le premier épisode de 6ème Science arrive à son terme. Si vous voulez en savoir plus, il faudra vous rendre chez votre libraire et lire le dernier numéro de Science et Avenir. Donc justement l'article qui est assez épais hein, de Hugo Jalinière. Vous pouvez aussi patienter un peu. Tous les mois, nous vous proposons de nous retrouver dans 6ème Science pour vulgariser un sujet en compagnie d'un membre de la rédaction de Science et Avenir. On aura quelquefois la chance, comme aujourd'hui, d'être accompagné d'un expert de 20 minutes. Et oui, c'est pas parce qu'on est des généralistes qu'on n'a pas des spécialistes à nos côtés. Rendez-vous le mois prochain.
2,21 gigawatts, mon Dieu! Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
6ème Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.